François Gerbert, bonjour.
Bonjour Didier Testet.
Vous êtes le gérant de Metanor, on va parler avec vous de votre actualité. Vous rencontrez des investisseurs hein, au Palais Brongniart. Quelles sont les réalisations sur lesquelles vous insistez sur ces derniers mois de Metanor?
La première des réalisations, c'est la montée en puissance de nos centrales qui commence à dégager de plus en plus de cash flow et qui commence à se traduire par les chiffres de rentabilité qui ont fortement augmenté au premier semestre 2017, puisqu'on est passé de 22 000 euros peu significatifs au premier semestre 2016 à plus de 120 000 sur le premier semestre 2017.
Donc ça, c'était un point important, clairement, pour les investisseurs. En termes d'activité, justement, l'évolution de l'activité, on s'était vu il y a quelques temps maintenant, Metanor a fait un certain nombre de choix stratégiques. Quels sont-ils?
Alors, il y a 3 ans, on a décidé de diversifier nos financements au-delà de la simple méthanisation agricole. D'abord parce que le marché n'est pas encore mûr et ensuite parce qu'on avait des opportunités très intéressantes dans le domaine hydraulique, dans le domaine photovoltaïque et dans la biomasse. Donc on a établi un plan qu'on a respecté jusqu'à présent de diversification de ce portefeuille de projets. Aujourd'hui, on en a 9 en exploitation ou en construction. La plupart ne sont pas encore en train de donner le maximum de leur substance, mais on a dépassé la majorité maintenant et ça dégage véritablement des cash flows et ça permet aussi de financer les futurs, en partie les futurs projets.
Alors, peut-être que sur la méthanisation, ça va évoluer. Quel est votre regard, vous, d'industriel? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Puisque là, on pourrait se dire, avec Nicolas Hulot, par exemple, ministre de l'écologie, peut-être que cette idée-là pourrait être avancée beaucoup plus.
Alors, un certain nombre de choses peuvent dépendre du politique. Beaucoup d'autres ne dépendent pas du politique. Parmi ce qui pourrait être accéléré, ce sont les procédures réglementaires, c'est certain, qui sont aujourd'hui extrêmement longues en France, beaucoup plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'en Italie, beaucoup plus qu'en Allemagne, beaucoup plus qu'en Belgique. Il y a un deuxième facteur qui fait que la méthanisation a pris du retard et qui nous a amené à diversifier, c'est le fait que beaucoup de banques sont frileuses par rapport au financement de ces dettes, puisque ce sont toujours des projets qui se financent en fonds propres et en dette. Et donc, il faut trouver des solutions alternatives pour continuer à financer de plus en plus de projets.
Donc, il y a, on va dire, encore beaucoup d'obstacles avant que ça décolle. Quand vous comparez, justement, vous parliez de l'Allemagne. Clairement, en Allemagne, il y a beaucoup plus d'unités qui sont installées.
C'est absolument incomparable. Là où l'écart entre la France et l'Allemagne, il y a 5 ans, c'était 200 pour la France, 7000 pour l'Allemagne. Nous, on est peut-être passé de 200 à 300 et eux, de 7000 à 8000. Vous voyez, la proportion n'a rien à voir. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le potentiel reste entier. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle à long terme, mais on a besoin d'accomplir plus de choses, de réunir plus de conditions pour que le processus soit plus rapide.
De l'autre côté, du côté des agriculteurs, j'imagine que ça aurait pu être aussi une source de revenus complémentaire.
C'est d'une part une source de revenus complémentaire, mais d'autre part surtout un moyen de transformer ce qu'ils doivent déjà traiter, c'est-à-dire le déchet, en un potentiel. Et là-dessus, il y a encore des progrès à faire en termes de réglementation, c'est clair, puisqu'aujourd'hui, on est toujours pénalisé par la difficulté de mettre en place des plans d'épandage, alors que même le digesta, qui est issu de la méthanisation, n'est pas véritablement un déchet. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de nuisance. C'est un petit peu dommage, effectivement, qu'on ne puisse pas l'exploiter mieux. Mais je pense que le potentiel se révélera à un moment donné ou à un autre, et on sera là pour le saisir.
Alors, justement, concernant les autres activités, quand on parle de biomasse ou de photovoltaïque, on en est où sur le photovoltaïque? Parce qu'on a eu des périodes, si on regarde un peu historique, de croissance, et puis ça s'est arrêté. Il y a eu, bien sûr, sur le produit lui-même, des importations chinoises. Enfin, voilà, c'est des marchés quand même assez perturbés.
Ce sont des marchés qui ont été perturbés par la réglementation à une certaine époque, à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que l'opportunité était tellement forte que tout le monde s'est rué dessus. Nous, on a essayé d'être sélectifs dans notre façon de travailler. Et donc, aujourd'hui, on va dire que le tri a été fait entre les acteurs les plus solides et les plus fragiles. Et ceux qui subsistent sont clairement les plus solides. On n'est pas uniquement dans une logique de rentabilité sur une longue période de 15 ou 20 ans. On est aussi dans une logique de rentabilité hors subvention. Et ça, c'est quelque chose de sain. Et c'est sain suffisamment pour avoir des beaux projets bien rentables et qui sont bénéfiques pour tout le monde.
Oui, parce que dans ce secteur-là, on peut dire, même en tant que particulier, on peut être sollicité sous forme de spam, quand c'est déjà trié, pour rendement photovoltaïque exceptionnel, sans risque, garanti. On peut recevoir ce type de message encore aujourd'hui.
Ça existe toujours. Le tarif pour les particuliers est clairement encore très fortement subventionné. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, ça peut être aussi vrai pour acheter vos fenêtres. Il faut être sélectif sur le producteur et raisonner hors subvention si vous voulez avoir un montage qui soit sain. C'est pas du tout notre marché en l'occurrence. On n'est que sur les grosses exploitations et on préfère rester sur les grosses parce que c'est beaucoup plus simple à gérer pour nous.
Là aussi, il y a une prise de conscience, ça évolue favorablement, parce que quand on regarde, je dirais, la météo en France, on sait bien que logiquement, il devrait y en avoir beaucoup plus, au sud de la Loire, par exemple.
Il y en a beaucoup plus au sud de la Loire, mais on pourrait tenir le même raisonnement pour les piscines. La France est le pays du monde où il y a le plus de piscines par habitant, c'est comme ça. Et pourtant, il y en a dans le nord comme dans le sud. Non, le marché aujourd'hui, il est clairement structuré par la demande et plus par l'offre. Et c'est plutôt plus sain en termes de développement. Le potentiel est encore assez fort. Mais on va dire que si j'étais un particulier et que je devais traiter la question, je commencerais par isoler mon logement et ensuite j'essaierais de voir ce que je peux faire avec ma toiture. L'un n'exclut pas l'autre, mais à mon avis, il y a plus à gagner en termes de ROI pour un particulier que de cette façon-là aujourd'hui. Voilà.
Du côté des perspectives, quelles sont vos priorités sur les prochains mois?
Nos priorités, clairement, c'est transformer les projets en cours d'études en projets à financer et financés. La deuxième priorité, c'est de faire en sorte que tous les projets existants qui sont en cours de construction arrivent en exploitation. Donc, on a une première centrale hydraulique qui arrive en exploitation bientôt, puisque les travaux vont se terminer en fin d'année. Ensuite, la troisième priorité, c'est de continuer à exécuter le plan, c'est-à-dire augmenter le résultat régulièrement et distribuer 90% du résultat comme on s'est engagé à le faire, sachant que le résultat commence à être significatif, le dividende devrait l'être aussi, et je pense que logiquement, le cours devrait suivre.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci François Gerbert.
Merci Didier Testor.